On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Pourquoi il y a autant d'allergies et d'intolérances alimentaires? Pourquoi y a-t-il autant de cancers chez les enfants? Pourquoi on voit de plus en plus d'enfants obèses? Pourquoi on n'apprend plus à cuisiner? Pourquoi sommes-nous si nombreux à avoir mal au ventre? La faute à qui? Eh bien ce soir, on se dit tout et on fait la lumière surtout sur ce qui ne va pas dans notre alimentation. Pourquoi on en est arrivé là? Et vous, vous avez fait quoi pour arrêter d'empoisonner vos enfants? Stop au gluten, au lait, à la viande, aux OGM, aux pesticides, aux mauvaises habitudes, aux plats tout préparé. Mais est-ce que c'est si facile que ça? Eh bien, venez nous rejoindre et nous apporter vos solutions au 0810 055 056 jusqu'à 22h. Et nous sommes avec le spécialiste du bien-être, Erwan Manteour, et auteur du livre « Et si on arrêtait d'empoisonner nos enfants » aux éditions Solar. Bonsoir Erwan.
Bonsoir.
On vous connaît avant tout, d'abord, on vous a connu comme ça, comme coach sportif, et on vous retrouve militant aujourd'hui, de plus en plus militant, même avec ce dernier livre.
Ben, d'abord, dans un premier temps, moi j'ai utilisé mon corps comme mon outil de travail, comme une Formule 1, donc j'ai appris à l'optimiser. Ensuite, j'ai commencé à m'occuper du corps de gens célèbres qui avaient les moyens. Et puis ensuite, je me suis dit qu'il fallait vraiment démocratiser l'accès au coaching. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de structurel qui était en train de nous empoisonner, puisque le monde dans lequel on vivait était en train de partir dans une course et qui transformait l'Homo sapiens en Homo economicus. L'Homo economicus est un marcheur qui ne connaît pas l'horizon, comme a dit un certain philosophe. C'est-à-dire que cette personne n'est pas du tout capable de réfléchir à la situation dans laquelle elle est et qui tombe malade de plus en plus tôt. Aujourd'hui, une femme vit jusqu'à 82 ans, elle est 21 ans malade. Un homme vit jusqu'à 79 ans, il est 22 ans malade. Et pour la première fois de l'histoire de l'humanité depuis 200 ans, il y a trois pays qui sont en recul de l'espérance de vie. Ce sont les États-Unis, la Russie et la France.
Et nous. C'est un livre qui à la fois fait peur et fait du bien. Fait peur sur le constat, là vous venez encore d'en faire un. Et puis en même temps qui fait du bien parce qu'on se dit, il y a des solutions, on les a. C'est l'éducation déjà à la base.
Je crois qu'on en est là parce que les politiques ne veulent pas affronter un vrai problème sociétal. On est un carrefour civilisationnel. On est à un moment donné où il faut vraiment réagir, il faut vraiment changer les choses. Et eux, ils sont sclérosés par le poids des lobbies, par le poids des annonceurs, par le poids des forces de l'argent qui les mettent au pouvoir. Et donc, il n'y aura plus jamais de révolution verticale. La seule révolution possible, envisageable, c'est la révolution horizontale. Mmh. Commencer par changer en nous ce qu'on voudrait changer autour de nous. C'est ce que disait Gandhi, c'est ce que disait aussi le Dalai Lama. Je crois que nous devons faire notre révolution intérieure.
Eh bien, on va parler de tout ça ce soir, de vos résolutions et vos révolutions à vous, de toutes les solutions que vous avez trouvées et mises en place pour faire en sorte de mieux manger, de vivre mieux, de tous les combats que vous menez contre les pesticides, les OGM, les lobbies de l'industrie agroalimentaire. Et si on arrêtait d'empoisonner nos enfants, c'est le titre du livre de notre grand témoin et c'est aussi le sujet d'On se dit tout jusqu'à 22h.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Et ce soir, on va prendre soin de nous grâce à vous et à vos témoignages. Vous qui avez ouvert les yeux sur les scandales sur l'industrie agroalimentaire, qui sont liés les scandales à l'alimentation. Vous qui avez changé certaines de vos mauvaises habitudes, qui en avez repris d'autres, des bonnes. Vous qui militez pour qu'on mange mieux et notamment dans les cantines de nos enfants, qui fuyez les pesticides, la malbouffe, les OGM, qui prenez soin de vous, de ce que vous mangez mais aussi de votre corps tout entier. Racontez-nous vos initiatives, vos combats, vos constats parfois terribles. On vous attend au 0810 055 056 en compagnie ce soir d'Erwan Manteour, spécialiste de la forme et du bien-être et auteur du livre « Et si on arrêtait d'empoisonner nos enfants » aux éditions Solar. Et c'est Michel qui est avec nous pour démarrer cette émission depuis les Alpes-Maritimes. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Vous avez eu la chance d'avoir une maman, notamment, qui vous a montré l'exemple.
J'avais une maman, oui, tout à fait. Qui m'a montré qu'avec rien, elle pouvait tout faire. Elle allait ramasser les poireaux sauvages dans la pampa, le thym, le romarin, les champignons, les olives, et j'en passe et des meilleurs, quoi. Donc, j'ai baigné là-dedans, et comme j'aime manger, et que j'aime, du coup, j'ai appris à aimer à faire à manger, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que là, je trouve aberrant de voir dans les produits qu'on achète tout fait, que ce soit les conserves, les pâtes cuisinées, enfin, même le moindre truc, il y a plein de, excusez-moi l'expression, il y a plein de merde, quoi.
Voilà. Vous pouvez le dire, hein, Michel, on a le droit.
On est tous bien d'accord avec ça.
Voilà, et moi, ça me rend fou, ça. Voilà, moi, je sais que j'achète, j'ai la chance d'habiter dans l'arrière-pays, certes, donc j'ai des connaissances au niveau producteur, de viande, de fromage, tout ça, et tout est sain, quoi. Tout est sain. Et les restaurants qu'il y a dans mon village, eh bien, ils font tout maison aussi.
Et est-ce que vous avez des enfants, Michel ?
Oui, ils sont grands. Et mes enfants sont un petit peu comme moi.
Mais je vous pose la question parce qu'on le voit bien dans votre livre, Erwan, et on le découvre, et c'est du bon sens. C'est-à-dire que si on a vu nos parents faire, si on le fait, et si on le fait devant nos enfants, ils le verront, et peut-être qu'ils le feront à leur tour, cueillir, cuisiner, faire les choses bien.
Alors, je pense que les psychologues en parlent très bien, c'est miroir ou répulsion.
Oui, on peut aussi dire « elle a ras-le-bol des poireaux sauvages non, de la maman de Michel ».
Ça va être notre façon de leur transmettre cet héritage et la façon de communiquer avec eux qui va les inspirer ou au contraire les contraindre et leur donner envie de transgresser ce qu'on leur a appris. Mais quelque part, 10, 15, 20 ans plus tard, ils vont reproduire ces bons réflexes parce qu'ils auront eu conscience des toxiques auxquels ils étaient exposés. Or aujourd'hui, on est dans un environnement toxique sans précédent. Ça n'est jamais arrivé. En fait, il y a des chiffres qui sont extrêmement alarmants. En France, l'incidence du cancer, elle a augmenté de 93% en 25 ans.
Et notamment chez les enfants ?
1,1% de plus par an depuis 30 ans. On est passé de un enfant autiste pour 5000 à un enfant autiste pour 68 en 10 ans. Dans le monde.
Ça, c'est aberrant quand on voit c'est hallucinant même.
Je voudrais qu'on essaye de se projeter, de se dire les politiques ne réagissent pas parce qu'ils sont dans une appréhension court-termiste des choses. Mais les effets négatifs de ça, c'est que les coûts de toutes ces maladies, de tout cet environnement toxique, va dépasser largement tous les autres coûts périphériques qui existent dans notre société. Mais les politiques aujourd'hui n'ont pas une vision à 20, 30, 40 ans. De même que l'environnement, vous voyez, aujourd'hui on est en train de penser, je vais juste m'éloigner un petit peu, mais que vous compreniez à quel point on en est dans une situation dramatique. Quand je vous parle d'environnement toxique, moi j'ai passé, lorsque j'ai écrit un livre qui s'appelait « Et si on décide, d'aller bien ?», j'ai passé pas mal de temps avec Jean Jouzel, qui est prix Nobel de la paix, qui est le patron du GIEC.
C'est quoi le GIEC ?
Le GIEC, c'est le groupement intergouvernemental pour suivre l'évolution du climat.
D'accord.
Donc voilà, c'est eux qui sont en responsabilité du climat et du réchauffement climatique. Il m'expliquait que théoriquement, d'ici 2050, on devait prendre 2 degrés. En fait, ces 2 degrés, on va les prendre d'ici 2030. D'ici 2050, on va peut-être prendre 5 degrés. Puisque l'année où on fait la COP21, c'est l'année où on a produit le plus de gaz à effet de serre. Si on prend ces 5 degrés, le permafrost, c'est-à-dire une couche glaciaire qui est en haut, elle va fondre et elle va libérer tellement de gaz carbonique que ça peut être la fin de l'espèce humaine et de toute vie sur Terre dans 150 ans. Donc ça devrait...
Quand je dis que le livre fait peur aussi...
Il faut là, c'est le problème, c'est que le problème n'est pas d'être anxiogène ou de faire peur, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'il y a une réalité. Il y a un macrobiote qui est la planète, et il y a notre microbiote à l'intérieur, notre écosystème intestinal, qui conditionne la prévalence de toutes les maladies inflammatoires, cancer, obésité, diabète, maladies auto-immunes, maladies de Parkinson, etc. Mais qui conditionne aussi 70% de notre immunité. Et il y a un bon sens. Quand j'entends Michel qui est en train de nous dire que sa maman italienne cueillait tout et qui prenait du bio et qui mangeait des légumes. Mais c'est qu'on a besoin d'un matériel pour assurer nos fonctions vitales et cognitives. Et que ce matériel aujourd'hui, très peu d'individus le donnent à leurs enfants. On est en train de manger ce qu'on appelle aujourd'hui des calories creuses. C'est-à-dire qu'on donne des calories qui n'ont aucune propriété nutritionnelle, sinon de nous faire grossir et nous rendre malades. Parce qu'on a transformé notre façon de manger.
Donc ça montre bien que c'est aussi de l'éducation dès le début, en fait. Mais comment on fait si les adultes n'ont pas été éduqués au départ ? Là, Michel, il a eu de la chance, il avait une maman qui lui a montré l'exemple. Mais aujourd'hui, si les adultes, les trentenaires, les quadrades aujourd'hui n'ont pas vu leurs parents faire, vont pas le transmettre à leurs enfants, qui va les aider ? Qui va nous aider à le faire ?
Alors, avant de les aider, il y a quelque chose qui est assez symptomatique aujourd'hui. Parce que moi, je voyage beaucoup en France, je fais des conférences, je fais beaucoup de dédicaces. Et je suis confronté à une réalité prégnante qui est absolument affolante. On est passé de 2 personnes sur 3 qui contractent un cancer au cours de son existence, avec une de ces 2 personnes qui meurt, à 3 personnes sur 4 avec 2 personnes qui en meurent. L'explosion du diabète, l'explosion des maladies auto-immunes. Donc, il n'y a plus une personne qui n'est pas touchée par des maladies graves dans son entourage. Ça, c'est une prise de conscience qui nous fait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le monde actuel dans lequel on évolue.
Il n'y a pas de hasard, ce n'est pas juste la fatalité. À un moment donné, on sait d'où ça vient.
Il n'y a pas de hasard, je vais vous dire. En Europe, 70% des cancers sont liés à l'environnement, 30% à la pollution et 40% à l'alimentation. Chaque année, 100 000 enfants meurent de maladies causées par l'environnement, ce qui représente à peu près environ un tiers des décès. Depuis 30 ans, les cancers des enfants augmentent chaque année de 1,1% par an, ce qui équivaut à 11 nouveaux cas par million d'enfants et par décennie. C'est juste délirant qu'aucun politique ne prenne ces sujets à bras le corps, parce qu'il va être obligé de mettre une politique volontariste de prévention et révolutionner les choses.
Michel, merci de nous avoir appelé, d'avoir ouvert l'émission ce soir. Et vous aussi, venez nous rejoindre au 0810 055 056. Est-ce que vous menez des combats? Est-ce que vous militez, vous aussi, pour qu'on mange mieux, pour qu'on fasse un peu plus attention, pour que les politiques nous écoutent également ce soir? Est-ce que vous militez dans votre commune pour des cantines bio, par exemple? Ça peut être un premier début. 0810 055 056. On est ensemble jusqu'à 22h.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Il y a eu des livres, pas mal. Il y a eu des films aussi, quelques-uns. On pense à Demain, de Mélanie Laurent, Nos enfants nous accuseront, de Jean-Paul Jaud, pour ne citer que. Et malgré le combat, malgré les dénonciations en pagaille, les initiatives, eh bien ça ne bouge pas. Et on trouve toujours du poison en libre-service. Dans les supermarchés, dans les cantines de nos enfants, c'est encore le pire. Dans les champs de certains agriculteurs et donc forcément dans leurs produits. Ça vous énerve, vous aussi, ça vous révolte. Vous êtes militant depuis peu ou depuis des années maintenant. Venez nous en parler jusqu'à 22h au 0810 055 056. On se dit tout avec Erwan Montéour qui est notre grand témoin et avec ce livre vraiment que je vous conseille. Et si on arrêtait d'empoisonner nos enfants chez Solar Edition? Et puis on vous écoute surtout nous parler de vos combats, de vos idées aussi. Nous sommes avec Aimé en Isère. Bonsoir Aimé.
Oui, bonsoir.
Alors vous, vous avez fait un constat flagrant entre la ville et la campagne?
Oui, alors moi je suis née à la ville, justement, et j'ai jamais vu ma maman qui cuisinait parce qu'elle travaillait du matin au soir. Donc quand je suis rentrée dans la vie active et que je suis allée faire mes courses, il y avait rien de déconnant pour moi d'aller acheter de la béchamel toute faite, d'aller acheter des tomates en toute saison, puisque c'est merveilleux, magasin nous en propose toute l'année. Alors s'ils nous en proposent toute l'année quelque part, c'est qu'il y a des acheteurs. Et je crois qu'aujourd'hui, les consommateurs ont oublié qu'ils ont un pouvoir. De la même manière qu'on a un pouvoir d'élection, on a un pouvoir d'achat. Alors qui n'est pas le même pour tout le monde, parce que c'est vrai que une boîte de... Je suis désolée, pour une famille qui aimerait manger mieux, elle n'a pas forcément le choix. Mais moi, je suis arrivée à cette constatation du plaisir, du statif, en arrivant à la campagne. Parce que forcément, tout d'un coup, les tomates... cultivées soi-même, elles n'avaient pas le même goût que ce qu'on pouvait trouver dans la grande ville.
Et elles ne poussent pas en décembre, les tomates à la maison.
Et elles ne poussent pas en enfant, et surtout dans la terre, puisqu'on nous vend beaucoup de hors-sol, et dans la fraise, et dans la tomate. Alors moi, je travaille depuis 4 ans sur une exploitation qui produit du bio, qui, en l'occurrence, est la pomme. Donc la pomme, la fraise sont des choses les plus pesticidées. Comme dirait Pierre Rabhi, maintenant, quand on vous souhaite bon appétit, on devrait vous souhaiter bonne chance quand on
fait bon courage.
C'est vrai. Alors moi, je voudrais reprendre Pierre Rabhi, qui parle souvent de la sobriété heureuse et qui donne la base. Et le film Demain, alors moi, je vais pas être aussi négatif que ce que vous dites. J'ai envie de voir le verre à moitié plein, qui est vide.
En quoi est-ce que vous trouvez que je suis très négatif?
Non. C'était la chroniqueuse qui disait voilà.
Ah oui, qu'il y a du poison partout.
Il y a du poison.
Ah mais c'est pour vous titiller un petit peu, c'est pour que vous appeliez aussi.
Non, c'est la vérité.
Mais c'est aussi une certaine vérité, oui.
Ça tombe bien. Mais le film Demain, si vous voulez, éveille certaines consciences. Je dis bien certaines consciences, puisque le premier volet c'est l'agriculture. Donc, ou alors peut-être les gens que je côtoie qui disent mais c'est vrai qu'aujourd'hui la solution c'est pas les politiques qui vont nous l'amener, hein, je vous dis tout de suite, sinon en tant que ce serait fait,
c'est une certitude.
Hein, on est bien d'accord là-dessus, je suis tout à fait d'accord sur la transparence.
Erwan, voulez-vous répondre, Aimé, par rapport à ce que vous avez dit déjà ?
Alors, Aimé, il y a plusieurs choses que j'ai envie de vous dire. La première, en disant que les choses... Il faut savoir que le budget des ménages dédiés à l'alimentation en 1950 était de 45%. Aujourd'hui, la part du budget ménager dédié à l'alimentation est de 8 à 12% selon le Crédoc. C'est-à-dire qu'on met plus d'argent, on met 18% dans sa bagnole et on met 5% dans les supports numériques qu'on adopte. Donc c'est déjà un choix. Et le choix qu'on ne passe pas à prendre soin de sa santé aujourd'hui, c'est le temps qu'on va passer à se guérir ensuite. Le deuxième point qui fait qu'en fait, il n'y a pas un seul ménage en France qui ne peut pas bien manger, même s'il n'a pas d'argent, c'est le choix de la viande. La viande coûte extrêmement cher et plus de 90% de la viande est d'origine industrielle. Elle est donc dégueulasse parce qu'elle est pleine de pesticides, d'antibiotiques et pour 45% du bétail français est pleine d'OGM. Elle détruit l'écosystème, le deuxième cerveau de nos enfants, celui qui protège notre immunité. Et ce choix de la viande, il coûte extrêmement cher. Si vous décidez de manger une fois par semaine de la viande, votre budget... alimentation mensuelle va augmenter de 40% et vous donnera accès à toutes sortes de légumes, de légumineuses, enfin tous ces bons produits.
Et puis vous dites
produits.
La viande c'est cher, mais les produits préparés et transformés ça coûte cher aussi.
Mais ça coûte extrêmement cher. Malheureusement, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les gens qui sont massivement touchés par les maladies inflammatoires, c'est les gens qui ont moins de 1400 euros. C'est-à-dire que l'eau coûte plus cher que du coca, que les sodas, des gâteaux de merde, enfin, tout ce qu'on connaît en junk food qui est en train de rendre nos enfants obèses. Il faut quand même recontextualiser les choses. Hein. En 2030, 35% de la population française sera obèse, dont 45% des enfants. Et quand on parle des perturbateurs endocriniens, un homme sur deux en 2030 sera stérile.
On va remercier Aimé qui est malheureusement est parti entre temps et on va accueillir Fabrice qui nous appelle depuis la région Champagne. Bonsoir Fabrice.
Oui, bonsoir.
C'est bien qu'on parle de sport avec vous, surtout avec Erwan Monteur qui est notre
Fabrice.
Grand témoin. Vous êtes
bonsoir,
dit Erwan. Il faut faire du sport pour se sentir bien et pour aller mieux aussi.
Oui, tout à fait. Alors moi j'ai 44 ans maintenant et puis pendant je dirais pendant une bonne quinzaine d'années j'ai vécu tranquillement mais sans trop faire attention et puis à 40 ans une petite prise de conscience avec les kilos en trop on va dire je faisais du sport, je l'ai un peu laissé de côté et puis un jour je me suis dit je veux refaire du sport et pourquoi pas du triathlon, voilà.
Bravo,
carrément, puis, vous y allez direct vous, hein.
Carrément, oui. je crois que c'était le bon âge quand même, voilà. Et puis je suis tombé par hasard, parce que je me déplace beaucoup, sur un livre d'Erwan Monteour, dans une station essence, que j'ai regardé, que j'ai feuilleté, que j'ai acheté. Et puis il s'avère que dedans, il y a quand même des vérités, je pense, à mon avis, un peu choc, mais nécessaires. Parce qu'aujourd'hui, je suis quand même assez d'accord sur le fait qu'on nous cache volontairement, mais qu'on nous... désinforme, on oublie de nous informer sur les choses essentielles.
Oui.
Et je pense que quand on veut faire du sport ou quand on veut vivre simplement et normalement, on a vraiment besoin d'avoir cette nourriture-là qui est, comme vous le disiez tout à l'heure, utile et non pas des calories juste pour des calories, quoi.
Mais écoute Fabrice, moi je suis absolument d'accord avec toi et puis il y a quelque chose qu'il va falloir que je vais vous expliquer. J'ai essayé de faire très très court pour que les auditeurs puissent bien comprendre. Lorsqu'on fait un travail cardiovasculaire qui dépasse 35-40 minutes, ce que les gens appellent le second souffle, c'est en réalité l'augmentation du volume plasmatique. Le plasma et la lymphe dans le corps, c'est ce qui permet d'évacuer les toxiques. On a 5 usines de traitement des déchets dans le corps, peau, poumon, foie, rein, intestin. Dans ces 5 usines de traitement des déchets et dans la graisse, c'est là que s'accumulent tous les toxiques, ce qu'on appelle les exotoxiques. C'est-à-dire que les additifs, les perturbateurs endocriniens, les hydrocarbures, les plastiques, l'aluminium, etc. Chaque fois qu'on fait un effort de 35-40 minutes, qu'on augmente le volume plasmatique, c'est comme si on sortait les poubelles de ces 5 usines de traitement des déchets. Ensuite, lorsqu'on fait un effort intense, lorsqu'on va faire ce qu'on appelle un effort adrénergique, c'est-à-dire qu'on va solliciter les catécholamines. Les catécholamines, c'est quoi? C'est la noradrénaline et l'adrénaline. Donc en gros, si je devais vous faire un schéma, et à toutes les auditrices et à tous les auditeurs qui nous écoutent, l'adrénaline, c'est votre copine. Dès que vous tremblez, lorsque vous faites du sport, vous allez avoir une réaction hormonale qui va faire que, comme votre corps n'est pas préparé pour faire ce que vous lui demandez, il va avoir envie de se débarrasser de ce qui l'encombre, et ça va prendre quelques semaines pour pouvoir se débarrasser de ce qui l'encombre, le processus d'amaigrissement. En revanche, il va envoyer une réponse hormonale de testostérone, d'hormones de croissance et de DHEA, qui sont des hormones qui vont vous permettre de prendre de la masse musculaire, d'augmenter votre dépense de calories au repos, de perdre du gras et d'éliminer les toxiques. Donc évidemment, faire du sport, c'est indispensable et essentiel aujourd'hui. C'est le premier réflexe à avoir, en plus de décider de changer son alimentation.
Et Fabrice, depuis que vous faites du sport, vous mangez mieux aussi? Vous dites, si je fais du sport, c'est quand même aussi pour faire attention à moi, et ça va de pair. Aujourd'hui, votre alimentation, elle a changé depuis que vous faites du triathlon, par exemple?
Ah oui, elle a changé, en fait, ça va de pair, parce que, alors, dans le livre, et puis de par ailleurs, j'essaie de prendre un petit peu par là, mais je peux dire que maintenant, si je monte des escaliers ou quoi nickel, enfin, qui ressemble à un effort quand même, le souffle, il reste très stable. Enfin, c'est surprenant quand même, à quel point on peut avoir une meilleure vie, une meilleure condition.
T'as réveillé ton corps, quoi.
Voilà, j'ai un peu réveillé mon corps, maintenant je suis à l'étape de faire des demi-Ironman aujourd'hui.
Super, bravo.
Juste en 3 ans et avec un petit peu de volonté, quoi, surtout.
Ouais, comme quoi c'est possible, ça c'est important de le dire aussi. Fabrice, merci d'avoir été avec nous parler de sport. C'est important aussi quand on veut éliminer toutes les toxines qui sont autour de nous, même si on fait très attention, il y en a toujours des toxines. On parle ce soir de bien-être, de comment vous faites, vous, pour vous sentir mieux, de ce que vous avez mis en place pour manger mieux, pour faire en sorte que vos enfants aillent mieux aussi. 0810 055 056, nous serons avec Véronique dans un instant. C'est suite à un cancer qu'elle a décidé de changer son mode de vie.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Notre corps est maltraité à cause de mauvaises habitudes alimentaires notamment, mais pas que. On a pris plein de mauvaises habitudes tout court. Ce soir, on va essayer d'y remédier grâce à vous, vous qui prenez soin de vous, de votre corps, de votre alimentation. Vous faites pousser vos légumes, vous avez réappris à cuisiner, vous avez réappris le goût des bonnes choses. Vous avez milité peut-être même contre ceux qui nous empoisonnent. 0810 055 056, c'est le numéro d'On se dit tout, et vous avez la parole ce soir en compagnie d'Erwan Manteour, spécialiste de la forme du bien-être et auteur de ce dernier livre, Et si on arrêtait d'empoisonner nos enfants, aux éditions Solar. Et nous sommes maintenant à Nice chez Véronique. Bonsoir Véronique.
Bonsoir Véronique.
Bonsoir à tous les deux.
Alors vous avez changé complètement votre mode de vie, votre alimentation, suite à un accident de parcours, de la vie, un cancer?
Oui, il y a 4 ans, oui. Suite à une pneumonie, j'ai découvert un cadeau, parce que je trouve que c'est un cadeau de la vie et un cadeau de l'univers, de m'avoir envoyé un petit crabe sur un lobe du poumon. C'était une tumeur, une tumeur de fumeur, c'est une tumeur hormonale très rare. Et c'est ma chance. On a eu qu'à enlever un lobe et puis pas de chimiothérapie, pas de radiothérapie.
Vous avez quel âge, Véronique?
J'ai 62 ans.
D'accord. Et c'est arrivé il y a combien de temps?
Il y a 4 ans.
D'accord, à 58.
Oui, tout à fait. Et là, je me suis dit, Véro, ok, là, il va falloir que tu revoies ta copie. Et j'ai dit, ok, donc il va falloir travailler sur plusieurs plans, sur le plan spirituel, sur le plan personnel au niveau d'une psychothérapie, parce qu'on laisse toujours traîner des choses dans sa vie et qu'on croit résolues, mais en fait on s'assied dessus, mais elles ne sont pas résolues. Et puis sur le plan d'une hygiène de vie meilleure, et surtout au niveau d'une hygiène de vie meilleure au niveau alimentaire. J'ai toujours bien mangé, normalement, je cuisine, etc. Mais j'ai jamais fait attention jusqu'à ce qu'on commence à nous montrer du doigt que ce qu'on mange, ce qu'on achète dans les légumes, etc. On a toujours l'impression qu'on fait bien quand on achète des légumes au supermarché. Mais finalement, en creusant un petit peu, on se rend compte qu'un brocoli a 29 pesticides. Et donc, j'ai commencé à faire du tri dans mes placards.
Et est-ce que ça a été difficile pour vous de vous mettre à adopter ce nouveau rythme de vie, ou est-ce que vous le faisiez avec plaisir parce que vous saviez que vous étiez en train de donner les bons nutriments pour vous donner une immunité qui vous permettait de vous défendre?
Je le faisais avec plaisir, mais j'avoue très sincèrement qu'au départ, je me suis retrouvée un peu perdue, parce que quand j'ai commencé à faire le tri dans mes placards et à lire tout ce qu'il y a sur les étiquettes, parce qu'on ne lit pas quand on va au supermarché, et que quand on fait le tri, qu'on regarde tous les additifs...
Vous étiez en colère à ce moment-là?
En colère, non, parce que c'était une décision... la colère, elle est venue après.
Non, mais de voir tout ce qu'il y a dans ces produits-là...
Oui. Et la colère vient encore maintenant, parce que je me dis, mon Dieu, on commence à savoir tellement facilement par Internet, par les émissions qui passent à la télé, qu'on est en train de nous empoisonner, mais délibérément. Et les gens se disent, ah oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire plein de choses. Moi, personnellement, alors j'ai toujours la possibilité de manger bio, mais je le fais au maximum. Et en tout cas, j'ai pris la décision de manger local et de saison. Et donc, je fais mes courses soit à travers des AMAP, soit à travers la ruche qui dit oui, parce que là, je sais que je mange local avec des petits producteurs qui sont dans une agriculture raisonnée, si pas bio. J'ai réduit à 99% ma consommation de viande. Et que maintenant je mange des légumes crus, cuits, des beaucoup plus de légumineuses, beaucoup plus de céréales.
Ouais, c'est super, Véronique.
Ah oui, tout compris là.
Vous savez que il y a un mec qui s'appelait Coluche qui en 1982 avait cette phrase qui disait: quand on pense qu'il suffirait qu'on arrête de l'acheter pour plus que ça se vende.
Exactement.
Et en fait, on a une arme de construction ou de destruction massive dans la poche. On a une carte de crédit.
Ouais.
Et en fait, c'est nous qui avons le pouvoir.
C'est ce que nous disait Aimé tout à l'heure. On peut aller voter aux prochaines élections, mais on peut aussi ne pas acheter certains aliments. Si on les achète plus, ils les fabriqueront plus, a priori.
Mais de toute façon, moi, en étant chef d'entreprise, je peux vous en parler. Un business model qui fonctionne pas, on change de business model. Donc à un moment donné, si les industriels se rendent compte qu'ils ne vont plus gagner d'argent parce qu'on n'achète plus leurs produits, ils vont moraliser leurs produits, non pas parce qu'ils vont le moraliser d'eux-mêmes, mais parce qu'il ne se vend plus. Si je vous avais parlé de faire du bio dans les années 70-80, vous m'auriez dit que j'étais un 68-art attardé, un altermondialiste de base. Aujourd'hui, on ne peut pas aller dans quelque endroit que ce soit sans qu'on nous parle du bio. Pour le meilleur et pour le pire, je vous l'accorde.
C'est vrai qu'il y a bio
et on
bio.
En parlera peut-être tout à
j'espère.
L'heure.
J'espère. Merci beaucoup Véronique.
Merci Véronique et bravo pour votre changement.
C'est vraiment chouette. Vous aussi, racontez-nous les différentes initiatives que vous avez mises en place pour essayer de vous sentir mieux, pour décider de prendre soin de vous aussi. Et puis des combats que vous menez. Vous êtes peut-être membre d'une association, vous militez pour que justement on ait moins d'OGM, moins de pesticides, que les supermarchés fassent un peu plus attention, que les agriculteurs arrêtent aussi de mettre certains produits dans leur champ. On va parler de tout ça avec vous, qui êtes engagés, qui faites attention, et surtout on va essayer d'éviter et d'arrêter d'empoisonner nos enfants. C'est le titre du livre de notre grand témoin, Erwan Manteour, et vous aussi, venez nous rejoindre au 0810 055 056.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Et si on arrêtait d'empoisonner nos enfants, c'est le titre du livre d'Erwan Manteour, qui est notre grand témoin ce soir. C'est aussi le thème d'On se dit tout. Si vous êtes persuadé que les allergies alimentaires de vos enfants sont causées par l'environnement, que l'industrie agroalimentaire vous empoisonne, trop de sucre, trop de sel, trop de gras, trop de conservateurs, de gluten aussi. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites, vous, pour changer vos habitudes, pour lutter contre la grosse machine? Eh bien, ce soir, on se fait du bien. On trouve des solutions tous ensemble. Et surtout, on en parle. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour prendre soin de vous et de vos enfants? 0810 055 056, direction l'Alsace, chez Jean-Paul. Bonsoir Jean-Paul.
Bonsoir Jean-Paul.
Alors vous avez changé de voie complètement. Vous étiez fonctionnaire, vous êtes devenu prof de cuisine.
Oui, alors moi, c'est le gros problème, c'est que j'ai changé de vie, carrément changé de vie.
C'est pas un problème ça, Jean-Paul.
Bravo.
J'avais 35 ans, j'étais installé dans une vie de fonctionnaire titulaire, pépère, j'aurais pu finir, mais avec des cheveux blancs. Et puis un beau jour, j'en ai eu marre, vraiment, vraiment eu marre de tout ça, et je me suis dit, je remets tout en question. Je suis allé, j'étais toujours un fada de cuisine, mais je ne savais pas plus que ça, le simple amateur. Et je suis allé travailler dans des restaurants le soir, je suis allé dans des écoles suivre des cours pour chômeurs, ça fait un sacré bazar, en me disant un titulaire qui vient pour un cours. Alors, je me suis fait tout petit, Et puis, 3 ans après, ben, j'ai été recruté comme prof de cuisine, dans la voie, tout ce qu'il y a de plus naturel, par concours interne, voilà.
Jean-Paul, est-ce que je peux juste comprendre, essayer de comprendre qu'est-ce qui a été le déclencheur, qu'est-ce qui a été l'élément qui a été décisif dans votre prise de décision de quitter votre...
En 74, la découverte d'un diabète.
D'accord.
Du jour au lendemain, je me suis dit, paf, Bazaïe était diabétique. On va pas mettre tout le monde au régime, mais il faut faire comment attention.
C'était un diabète de type 2, c'était un diabète acquis alors.
Oui, un type 2, bien sûr.
Bien sûr. Faut préciser, alors le type 1, c'est celui qui est génétique, et le type 2, c'est celui qui est acquis ensuite. Il y a énormément de gens aujourd'hui, lorsqu'ils s'exposent constamment au sucre, et l'industrie agroalimentaire nous met du sucre partout. 56%.
Donc là, on sait directement d'où ça vient.
56% des sucres qu'on mange sont des sucres cachés dans tous les plats industriels, et c'est ce qui fait qu'il y a énormément de gens, c'est une épidémie.
Donc là, vous avez dit, il faut que je réapprenne à bien manger et donc à cuisiner.
Voilà, à cuisiner.
Et apprendre aussi aux autres, peut-être.
Voilà. Le problème, c'était pas de le savoir le faire pour moi. C'est pas ce qui me plaît dans la vie. Moi, quand je sais quelque chose, j'ai envie de partager. Et ça a commencé en grand. Parce que j'avais un copain médecin qui m'a dit un jour, écoute, voilà, nous, on est souvent invités par les labos pour aller manger. Moi, je préférerais savoir le faire. Et on a créé une association, et comme on est des petits rigolos, on a appelé ça Panta Cruel. Parce que c'est cruel de vouloir bien manger quand on est médecin. Voilà. Et du coup, on se réunissait une fois par mois et on rêvait un menu. Mais je leur ai dit, attention, si vous dites pâte feuilletée, vous allez la faire vous-même. Hein. Et je faisais des fiches techniques et les gars, et ils apprenaient. On royait, on éclatait en atelier. Il y avait un atelier qui faisait l'entrée, un atelier qui faisait la garniture, un atelier qui faisait la viande, un dessert. Et c'était très marrant, ça a duré 3-4 ans. Et cette histoire-là m'a donné envie de continuer avec les moyens modernes maintenant. J'ai ouvert un site simplement pour partager mes connaissances. Et quand je vois en un an 270 000 personnes qui non seulement viennent voir, mais dont beaucoup m'interpellent par des commentaires et en disant voilà pourquoi et comment. Et ça, c'est intéressant de pouvoir voir ce qu'on peut faire.
Et Jean-Paul, est-ce que vous transmettez aussi aux plus jeunes, parce que on parle d'avenir, on parle des enfants ce soir, est-ce que les jeunes savent cuisiner aujourd'hui?
Les jeunes savent imiter leurs parents. Or, le problème, et vous en parlez depuis un moment déjà, c'est qu'il y a un siècle, une femme passait 3-4 heures par jour dans la cuisine. Maintenant, elle passe entre 20 et 30 minutes par jour dans la cuisine.
Et les hommes, alors ?
Et pardon ?
Et les hommes, alors, ils passaient combien de temps ?
Attention, Jean-Paul, là, ça devient tangent.
Non, parce que moi, je veux bien que les femmes passaient beaucoup de temps dans la cuisine, mais les hommes n'en passaient pas beaucoup non plus. Hein.
Non, non. Je dis qu'il y a un moment donné, la femme, pour avoir sa liberté, devait avoir son autonomie financière. Elle a donc demandé accès à des métiers, à travailler. Or, une femme qui travaille ne peut pas travailler, et beaucoup le font malgré tout, et au boulot, et en rentrant à la maison, reprendre un deuxième métier qui est celui de ménagère.
Il ne faut peut-être pas le prendre comme un métier, le fait de faire de la cuisine, Erwan, comme un plaisir à partager.
Non, moi j'ai, c'est marrant parce que très récemment, au Grand Journal, j'ai eu cette conversation. Aujourd'hui, chaque Français passe 2h40 par jour sur Facebook. Passer 35 minutes pour cuisiner, prendre le temps de cuisiner, et surtout amener ses enfants le samedi ou le dimanche à faire le marché pour découvrir ce que c'est qu'un légume, découvrir ce que c'est qu'une racine, découvrir ce que c'est que les saisons.
De goûter,
c'est quelque chose, c'est quelque chose d'essentiel, parce que c'est faire partie du monde, c'est comprendre qu'on a une place, qu'on a une interaction, qu'on a tous un rôle dans cette société, et qu'on est dans une vision holistique du monde. Et en fait, c'est quelque chose qui devrait être dans les écoles. C'est-à-dire qu'on devrait faire de l'éducation alimentaire, on devrait faire des potagers à l'école, on devrait faire...
Il y en a quelques-uns, heureusement, mais pas
suffisamment.
Oui, mais
je pense qu'aujourd'hui, on devrait vraiment avoir une politique volontariste de prévention, et cette prévention, elle passe aussi par l'éducation. L'éducation passe aussi par le logement, avoir des logements avec sur le toit, des potagers, des endroits sacralisés pour pouvoir cuisiner.
Oui à la cuisine, non au... aux maths et à la physique-chimie. Pourquoi pas un nouveau programme, je me présente aux élections. Merci Jean-Paul d'être venu ce soir sur France Bleu. Et vous aussi, venez nous rejoindre au 0810 055 056. S'il y a des profs, des instits qui nous écoutent, qui mettaient en place des choses justement à l'école pour apprendre à mieux connaître les légumes, à mieux cuisiner, ben venez nous rejoindre également. On est ensemble jusqu'à 22h sur France Bleu.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Se passer de l'alimentation industrielle, est-ce que c'est possible? Manger tout bio, est-ce que c'est possible? Dire non à la malbouffe, au fast-food, au pas préparé quand on a des enfants, est-ce que c'est possible? Vous avez relevé le défi, vous êtes parti en guerre contre l'industrie agroalimentaire, contre les empoisonneurs, vous avez changé vos habitudes après avoir entendu qu'on parlait de plus en plus des cancers de l'enfant, de l'obésité des enfants. 0810 055 056, vous avez la parole si vous êtes en colère, si vous avez essayé de lutter mais que vous n'y arrivez pas parce que vous trouvez que c'est compliqué. Si vous êtes en guerre, en lutte, c'est votre émission. J'ai décidé de prendre soin de moi. C'est le sujet dont se dit tout avec Erwan Manteour qui est notre grand témoin et qui vient nous parler de son dernier livre. Et si on arrêtait d'empoisonner nos enfants aux éditions Solar. Et direction la Bourgogne chez Serge. Bonsoir Serge.
Bonsoir Serge.
Bonsoir Vanessa, bonsoir Erwan.
Alors Serge, il y a un constat évident pour vous qu'on est toujours à la merci des grands groupes de semenciers, c'est ce que vous dites ?
Pour moi, oui, je pense que ça reste évident. Disons que on est beaucoup. Je fais partie des gens qui, depuis quelques années, refont du jardin, donc ou font du jardin, et nous sommes soumis quand même à des achats, donc de semences pour ces jardins, dont la provenance souvent vient de grandes maisons, de très bonnes maisons. Mais nous avons de plus en plus de légumes hybrides. Dont on ne peut pas récupérer de graines après avoir consommé les légumes. Et généralement, je veux dire, on ne connaît pas les origines. Bien que les goûts que ces légumes réussissent à obtenir, qu'on réussit à obtenir, soient meilleurs que ceux du commerce, on a quand même, on peut avoir certaines hypothèses comme quoi les semenciers nous mettent un petit peu tout et n'importe quoi sans qu'on puisse faire grand chose. Donc alors, l'idéal,
Serge, vous savez que
pardon.
Il faut quand même savoir quelque chose, c'est que ce soit Monsanto qui vient d'être acheté par Bayer, ils veulent la gouvernance mondiale de l'alimentation. Leurs meilleurs ambassadeurs sont les diplomates américains qui militent partout et ils ont fait des pressions énormes. Il y a eu un lobbying énorme en France pour qu'on adopte toutes ces semences. En fait, ce qui les intéresse, c'est d'avoir la gouvernance mondiale de l'alimentation. Aujourd'hui, il y a un accord qui vient de se faire. On a réussi à éviter le TAFTA et maintenant on est en train d'accepter le CETA. C'est un accord avec le Canada, qui va permettre d'adopter ces semences, mais en plus, les semenciers vont pouvoir se retourner contre les États devant des tribunaux arbitraux, et ils attaqueront les États quand nous, on dira que ces semences qui nécessitent un grand nombre de pesticides et qui détruisent la biodiversité et qui détruisent le microbiote de nos enfants et nos santé, eh ben, ils pourront se retourner contre nous.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, un agriculteur qui a décidé de garder ses graines, de faire lui-même ses semences, se met hors
la loi. Dans l'illégalité, absolument.
Ah ouais. D'accord.
Il y a Pascal Pote aujourd'hui qui fait des légumes sans eau, qui est un mec qui est extraordinaire. Et il y en a plein, il y a plein de révolutionnaires et qui sont des gens qui ont une conscience de la nécessité de changer les choses, qui sont hors la loi. Et que même la loi française considèrent comme des gens hors la loi, et c'est dramatique.
Et vous, quand vous faites votre jardin, Serge, vous faites attention à quoi ?
Alors, moi déjà, je fais attention. J'ai un terrain qui a été arrosé pendant des années par l'agriculture, donc parce que cette partie de terrain que j'ai racheté à mon père à une époque faisait partie d'un champ. Donc moi, j'ai pu récupérer une partie du bien familial. Et en définitive, moi, ça fait 10 ans qu'il n'y a aucun engrais qui est semé. Donc j'ai eu une jument pendant un moment qui m'a engraissé le terrain naturellement, donc je profite d'une partie du jardin qui est fumée naturellement et je ne mets aucun engrais et je réussis à avoir des légumes, de beaux légumes.
Avec des fumures naturelles.
Oui, mais ça demande beaucoup de travail, ça demande du désherbage manuel. On passe des heures avec mon ami à faire du désherbage manuel plutôt que d'aller mettre des des herbants chimiques.
Serge, vous avez raison, l'agriculture biologique, c'est une science ancestrale qui n'a rien à voir avec l'agriculture industrielle, qui ne nécessite aucune connaissance à part mettre des intrants chimiques dans le sol et des quantités astronomiques. Et le grand enjeu de société qui se pose à nous pour le prochain siècle, c'est est-ce qu'on veut quelques centaines de milliers d'agro-managers ou 2,5 milliards de paysans qui feront bien leur métier avec amour pour nourrir les gens.
Ouais, mais moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai remarqué, j'étais gamin à l'époque, dans les années 60, quand les quintaux de blé sont passés de 20 quintaux hectares à 100 quintaux hectares avec quelques sacs d'engrais, tout le monde a été réjoui, tout le monde s'est réjoui, tout le monde a sauté en l'air parce qu'il y avait des profits qui étaient faits à cette époque.
Depuis, mais ça répondait à une certaine demande aussi à une époque.
Comment ?
Ça répondait à une certaine demande aussi à cette époque.
Oui, mais bon, depuis, on est dans un cycle infernal, on ne peut plus régresser, reculer, puisque ça demande toujours... Les terrains sont cuits, sont littéralement cuits. On voit qu'il n'y a pas du tout... Il n'y a pas du tout de, comment dire,
de biomasse.
De plantes de fond, c'est-à-dire d'herbes, des petites trèfles, des petites choses comme ça, des petites variétés.
Il n'y a plus de biomasse, il n'y a plus de champignons, il n'y a plus de bactéries à l'intérieur du sol qui permet de nourrir le vivant. On a perdu 70% de notre biodiversité en Europe dans les 40 dernières années. De même que dans les 40 dernières années, on a perdu 50% des espèces animales dans le monde.
Est-ce qu'on peut revenir en arrière ? Est-ce qu'on, si on se dit, ok, on arrête sur... imaginons un agriculteur qui dit, moi j'arrête tout ça, je veux passer au bio,
bien sûr, écoutez,
ça va revenir la biodiversité.
Écoutez les gens qui sont en train de nous parler ce soir. Il y a l'émergence d'une génération responsable. Il y a des volontés, il y a des gens qui sont habités par des idées qui sont bien plus grandes qu'eux et qui peuvent faire la révolution. Pour faire la révolution, il faut à peu près 20% de gens motivés. Cette révolution, elle est en train d'apparaître chez les jeunes qui veulent revenir à quelque chose d'essentiel. On voit de plus en plus, par exemple, de paysans boulangers apparaître. On voit des gens qui cultivent l'agriculture biologique. Et on découvre que l'agriculture biologique rapporte beaucoup plus de l'argent que l'agriculture traditionnelle.
Ils le disent, hein, les agriculteurs qui sont passés en bio, on gagne bien notre vie, ce qui n'était pas forcément le cas
avant.
Merci beaucoup Serge d'être venu témoigner ce soir, d'être venu nous parler de ces grands groupes de semenciers, de ce scandale aussi derrière les semences, et puis de votre petit jardin à vous. Et si tout le monde faisait son petit jardin, ce serait pas mal aussi. Venez nous rejoindre, venez en parler. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour prendre soin de vous et de vos enfants? Contre qui vous vous battez aujourd'hui? Quel combat vous menez, vous qui êtes militant peut-être sur le bio, par exemple, sur les cantines des enfants. 0810 055 056 pour nous rejoindre.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout.
Vous avez dit stop à la malbouffe, aux OGM, à l'industrie agroalimentaire, à la viande, peut-être aussi. Vous avez repris le pouvoir sur votre corps et sur votre alimentation. Vous faites attention à ce que mangent vos enfants. On se dit tout, vous donne la parole ce soir avec Erwan Manteour, qui est notre grand témoin, coach sportif, spécialiste du bien-être, auteur engagé avec ce dernier livre. Et si on arrêtait d'empoisonner nos enfants aux éditions Solar. Et nous partons chez Didier dans le Puy-de-Dôme. Bonsoir Didier.
Bonsoir Didier.
Bonsoir François.
Alors vous faites de la viande ?
Oui, je suis producteur de viande, oui.
Oui.
Oui, je suis votre émission depuis le début, là, et j'étais un petit peu estomaqué par la réaction de votre intervenant, là, parce que quand il disait que de manger de la viande, ça augmentait le budget alimentaire de 40%, je suis bien d'accord avec lui, certainement même. Mais il ne faut pas mettre en cause des agriculteurs, quoi, je veux dire, parce que sinon, ça ne va pas le faire, quoi, je veux dire. Hein.
Alors Didier, déjà, on va pas du tout se disputer, parce que s'il y a bien des gens que j'ai envie de défendre, parce que je suis un petit-fils d'agriculteur déjà.
Oui, ben, je comprends bien. Oui.
Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que aujourd'hui, la plupart des agriculteurs en France dépendent des primes PAC de Bruxelles, ils dépendent des groupes industriels, il y a une asymétrie du pouvoir, et vous êtes plus qu'exploité, puisque vous produisez à perte. Donc ça, c'est le premier sujet. Aujourd'hui, en France, en ce qui concerne la viande, plus de 85% de la viande en France est d'origine industrielle. Par exemple, 100% du cochon est d'origine industrielle. Moi, j'ai fait des reportages pour Stéphane Bern, justement, dans des élevages. J'ai fait des reportages avec les poules. J'ai vu ce que c'était. Et ce qu'il faut savoir, je vais dire quelque chose qui est très important que tous les auditeurs entendent. Parce qu'aujourd'hui, on a fait une découverte majeure ces 10 dernières années. On a découvert l'existence du microbiote. Le microbiote, c'est un écosystème intestinal. On a 10 puissance 12 cellules qui composent notre corps. On a 10 puissance 14 bactéries dans l'intestin. On est plus bactérien que cellulaire. Et de ces bactéries, 70% de notre immunité découle. Et la prévalence de toutes les maladies inflammatoires. C'est-à-dire que cet écosystème intestinal se constitue entre le 3e mois de grossesse et la 4e année d'existence. Et si on donne de la viande industrielle, c'est quoi ? on donne. 45% des bovins en France, on le sait aujourd'hui, prennent des OGM. 80% de la production mondiale d'antibiotiques est destinée à l'élevage industriel, vous le savez, on le donne en prévention. Et ensuite, ils prennent d'autres produits qui dégradent le microbiote, qui dégradent les bonnes bactéries de l'intestin. C'est-à-dire que lorsqu'on donne la plupart des viandes qu'on donne aujourd'hui à des enfants à 3 ou 4 ans, on détruit leur immunité. Ça n'est plus à démontrer, c'est acté. Oui.
Et vous, Didier, comment vous faites, vous, par rapport à tout ça ?
Permettez-moi de vous couper. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le gros problème, si on veut prendre le nouveau problème, enfin, le problème qui se pose à l'heure actuelle à bras-le-corps, il faut interdire à toutes ces lobbies et à tous ces pouvoirs publics qui font pas leur boulot. C'est pas de notre faute, nous. Il faut commencer par eux, c'est pas nous les responsables.
Ah mais c'est surtout pas vous. C'est surtout pas vous, c'est les politiques. Il n'y a aucune politique volontariste de prévention qui est mise en place. Il n'y a aucune transition agricole, il n'y a aucune transition énergétique. Et c'est bien le problème, vous savez. Moi je travaille pour des politiques et je suis tout le temps en train de leur dire. Aujourd'hui, il est indispensable de protéger les agriculteurs. Mais protéger les agriculteurs pour qu'ils fassent des produits de qualité et qu'on leur rende leur dignité.
Mais quand vous écoutez les politiques, ils disent tous la même chose. Il faut sauver l'agriculture, il faut protéger l'agriculture. Seulement les mots, ça, c'est une chose.
Mais ils s'en branlent de l'agriculture.
Mais Didier, quand vous voyez, on va prendre l'exemple du lait par exemple. Aujourd'hui, on sait que les producteurs laitiers, ils doivent produire et ils le font avec Lactalis. On voit qu'aujourd'hui, il y a des producteurs de lait indépendants qui se sont dit, Lactalis terminé, nous on va faire notre lait, notre usine, on va produire, il n'y aura pas d'intermédiaire et on voit que ça marche. Pourquoi on ne pourrait pas imaginer la même chose pour la viande, Didier ?
Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais il faut déjà se donner les moyens et avoir les moyens de le faire, ça. C'est ça le problème, quoi, je veux dire. Hein? Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je suis producteur de viande. Je suis pas un petit paysan, mais bon, un producteur de viande. Mais notre hypermarché ou d'autres, enfin pas hypermarché, notre petite supérette du coin, elle achète les bêtes localement, toutes les bêtes locales.
Est-ce que vos bêtes sont sur des filières lin, est-ce qu'elles mangent ce pour quoi elles sont programmées ou est-ce qu'elles mangent du blé, soja, maïs?
Non, on n'en est pas là encore, mais on travaille en agriculture raisonnée déjà. En plus, on n'a pas d'OGM ni quoi que ce soit, c'est pour ça que ça me frotte un petit peu, ça, ces trucs. Nous, on peut se gosser, comme on dit chez nous, de vendre de la viande de qualité, quoi. Et le gros problème derrière, non seulement on fait de la viande de qualité, mais les acheteurs qui nous prennent notre viande ne savent pas faire la différence entre ces bêtes de qualité et les bêtes de industrielles, quoi, je veux dire. C'est ça qui va pas non plus.
Ouais, mais c'est parce que, vous savez, le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est que l'industrialisation de la société a fait qu'on va avoir 100 fois plus de viande industrielle, dégueulasse, mauvaise pour la santé, oui, que des viandes de qualité. Oui. Après, il y a un autre débat qui arrive aujourd'hui pour savoir si est-ce que c'est juste de manger de la viande, puisqu'on sait aujourd'hui que les gens qui sont végétariens ou véganes ont une espérance de vie qui augmente significativement. Par contre, si on mangeait de la viande comme nos grands-parents en mangeaient, c'est-à-dire une ou deux fois par semaine, on ne serait plus confronté à toutes ces maladies inflammatoires auxquelles on est confronté aujourd'hui.
Ce qui est marrant, c'est que ce soir, on fait une émission sur vivre mieux, prendre soin de soi, et qu'on mélange plein d'émissions qu'on a déjà fait sur l'agriculture, sur les végétariens aussi, donc c'est plutôt intéressant.
Mais tout
Didier,
est lié.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et bon, il faut défendre, hein, vous l'avez dit, hein, ceux qui le font bien, leur métier, qui font de la bonne viande, sans OGM, sans antibiotiques. Et il y en a heureusement. Dans un instant, Grégory sera avec nous. Il est producteur de lait et il se dit que si on devait tous passer au bio, on ne pourrait pas nourrir tout le monde. On va en reparler, on va vous laisser la parole, Grégory, et puis Erwan Montero vous répondra également. 0810 055 056, à tout de suite.
Partagez vos bons conseils. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu. Avec Vanessa Lambert.
Pourquoi y a-t-il autant d'allergies et d'intolérances alimentaires ? Pourquoi y a-t-il autant de cancers chez les enfants ? Pourquoi voit-on de plus en plus d'enfants obèses ? Pourquoi on n'apprend plus à cuisiner ? Pourquoi sommes-nous si nombreux à avoir mal au ventre sans raison particulière ? La faute à qui ? Ce soir, on se dit tout et on fait la lumière surtout sur ce qui ne va pas dans notre alimentation. Pourquoi on en est arrivé là ? Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour arrêter d'empoisonner vos enfants, pour reprendre le titre du livre de notre grand témoin, Erwan Manteour ? Stop au gluten, au lait, à la viande, aux OGM, aux pesticides, aux plats tout préparés. Venez en parler au 0810 055 056 et on ouvre un volet agriculture. On a eu Laurent à l'instant Didier, voilà, c'est que je prends un peu d'avance sur tout le monde. On a eu Didier qui fait de la viande et qui fait bien. Et maintenant on a Grégory et on aura Laurent aussi. Bonsoir Grégory.
Bonsoir.
Vous êtes dans la Sarthe.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Je suis producteur de lait, c'est un domaine que je connais bien, puisque je suis conseiller de région à la laiterie de Sodiale.
Ouais.
Et puis, je suis un petit peu frustré quand j'entends certains propos, notamment sur un peu plus à charge sur l'agriculture conventionnelle pour tirer tous les bénéfices à l'agriculture biologique. Effectivement, je crois qu'il faut qu'on se dise tout. C'est que demain, j'ai rien contre le bio. Cependant, faut pas non plus se voiler la face. Si demain tous les producteurs partaient sur une démarche biologique, on se retrouvera dans la même situation que le conventionnel a vécu il y a des décennies. C'est-à-dire que demain, le prix payé aux producteurs, de toute façon, de par des excédents de volume, s'alignera sur du tarif conventionnel que l'on peut percevoir actuellement. Et puis, deuxième chose, ça voudra dire aussi, puisque on a capacité à dire que les rendements sont divisés par deux ou par trois.
Non, ça c'est faux. Aujourd'hui. Écoutez, déjà en 2007, la FAO, qui est l'équivalent dans l'agriculture de l'Organisation mondiale de la santé, en 2007, elle a expliqué qu'en bio, on pouvait nourrir 12 milliards d'individus. Tout ce qu'on a découvert aujourd'hui sur l'agriculture conventionnelle et sur les OGM ont prouvé leur inefficacité lorsqu'elles sont concurrentes d'une agriculture où on mélange les cultures. Ça n'est plus à démontrer, on le sait. En revanche, aujourd'hui, les politiques ont fait le choix d'une agriculture industrielle. L'agriculture industrielle, et notamment dans le lait, on est passé à des bêtes qui produisaient 20, 30, 40 litres de lait à 90 litres de lait. Vous comprenez qu'il y a bien un problème si ça existe aujourd'hui.
Une vache à 90 litres de lait, faut à mon avis déjà pas en faire une généralité parce que ça court quand même pas les rues.
Vous faites du lait, vous, Grégory, vous avez des chiffres aussi.
Je vais pas vous le cacher, hein, j'ai des chiffres. Je suis à un niveau d'étable qui tourne entre 10 000 et 10 500 litres de lait par vache. Aujourd'hui, je traite 90 vaches. Sur mon dernier contrôle qui date du 26 février, quand j'ai une vache qui est à 45-50 kilos, si j'en ai 5 sur un troupeau de 90 vaches, c'est déjà pas mal.
D'accord. Donc, elles sont sur quel sol? Elles sont sur du sol en dur?
C'est du sableux limoneux, c'est des vaches qui vont dehors 7 mois de l'année. Et aujourd'hui, pour sortir d'un conseil de région, il y a très très peu de temps, pas plus tard qu'hier, aujourd'hui, le conventionnel est en train aussi d'étudier la piste que de faire des industries laitières sans OGM. Donc,
d'accord. Est-ce que toutes vos vaches sont... Est-ce qu'elles ont des antibiotiques systématiquement ou pas?
C'est pas du systématique, hein. Il y a des choses. Moi aujourd'hui, par exemple, je suis parti depuis 2 ans à essayer de mettre en place des traitements homéopathiques. Bien évidemment, l'homéopathique, c'est comme sur l'homme. Faut essayer de l'utiliser en préventif. Sur du curatif, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je dirais pas je n'utilise pas d'antibiotiques parce que ça serait faux. Cependant, les quantités d'antibiotiques ont très largement diminué. Pour preuve, aujourd'hui, les antibiotiques les plus dangereux et qui peuvent poser soucis, notamment dans le milieu hospitalier, ont complètement été interdits d'utilisation sur le bovin. Donc, l'utilisation d'antibiotiques...
En fait, vous savez par exemple que les OGM sont interdits en France et que 45% des bovins en France mangent des OGM.
Comment c'est possible ça, puisque c'est interdit?
C'est très simple, c'est parce qu'on fait venir d'Argentine par exemple, en tout cas d'Amérique du Sud, du blé, du soja, du maïs, et on ne précise pas l'origine, on ne précise pas le détail. C'est comme le bio qui vient du Maghreb, on va dire que c'est du bio, mais ce n'est pas du bio.
Parce qu'il n'y a pas les mêmes normes que chez nous.
Non, il n'y a pas les mêmes contrôles. Et en même temps, en ce qui concerne les antibiotiques, je veux bien que ce monsieur soit de bonne foi. Et moi, en fait, ce qui me peine le plus et ce que je trouve le plus insupportable, c'est que ce sont des gens qui sont totalement dévoués à leur bête, à leur profession, et qui sont en train de se sacrifier, et qui vivent sous perfusion des primes PAC de Bruxelles pour exister, qui produisent à perte et qui souffrent. Comme très peu de corporations en France qui sont méprisées par les pouvoirs politiques et qu'on ne leur donne pas le pouvoir de retrouver leur dignité d'agriculteur, c'est-à-dire de nourrir le monde. Et le vrai sujet, il est là, c'est que les politiques ne s'emparent pas de ce problème et qu'ils méprisent ces gens. Et donc ces gens sont confrontés à adopter les usages qui sont imposés par les normes industrielles.
Grégory, merci de nous avoir appelés. On va rester dans l'élevage, l'agriculture avec Laurent en Mayenne. Bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Forcément, ça vous fait réagir tout ce que vous entendez depuis le début de l'émission ?
Très bien. En fait, c'est de savoir si on parle de l'agriculture, si on parle de l'agriculture dans le sens positif ou négatif, si c'est un procès à charge ou pas. Moi, je suis éleveur laitier en Mayenne. Je fais également de l'accueil en ferme pédagogique pour l'accueil d'enfants, pour pouvoir faire découvrir l'agriculture aux enfants. Donc, en élevage laitier, avec un petit peu de culture. Et aujourd'hui, je me rends compte de plus en plus que quand il y a des enfants qui viennent visiter la ferme, même les enfants qui habitent dans les campagnes aujourd'hui commencent à être déconnectés du milieu agricole. Avant, tout le monde disait, j'ai un oncle, un grand-père, un arrière-grand-père qui était dans le milieu agricole. Aujourd'hui, on parle d'ancêtres.
On a perdu 8 paysans sur 10 totale. Sur le dernier recensement agricole. C'est-à-dire sur les 10 dernières années, sur les 20 dernières années, on a perdu 8 paysans sur 10. Et les deux qui restent, ce sont des agro-managers. Ce ne sont pas des paysans qui décident de nourrir, ce ne sont pas des paysans de proximité qui font des trucs de qualité.
Vous êtes toujours là, Laurent, ou ça vous a scotché, là ?
J'attends qu'on me laisse la parole.
On vous la donne.
je l'avais. Aujourd'hui, on a des enfants qui, même dans les campagnes, sont déconnectés. Et en fait, ils viennent pas. Quand j'ai des enfants qui viennent à la ferme, ça va être souvent des maternelles, ils ne viennent pas à la ferme pour apprendre le métier, apprendre comment les vaches vivent, comment on a des cochons à la ferme qui sont dehors. Ils viennent pour découvrir ce qu'ils ne connaissent pas, même dans nos campagnes. Et j'ai interpellé un élu au niveau local qui est venu, qui m'a entendu et que j'ai pas revu, en lui disant qu'aujourd'hui, les enfants, si on leur montrait un petit peu plus comment ça se passe concrètement, à quoi ça ressemble une vache, qu'ils aillent voir de plus près les animaux, comment ils vivent à la ferme et comment les gens s'en occupent, leur apprendre à l'école comment cuisiner, apprendre les légumes, travailler les légumes, travailler par eux-mêmes concrètement les produits, pour qu'en grandissant, à condition de les accompagner, parce que quand les parents ne savent plus cuisiner, comment apprendre à des enfants à cuisiner quand nous on ne sait plus faire, il faut que l'État encadre, faut que les enfants apprennent un peu plus à cuisiner à l'école, pour que quand eux seront grands, enfants qui seront grands et citoyens, puissent apprendre à cuisiner par eux-mêmes, connaître les produits et à partir de là, choisir les produits et consommer en connaissance de cause.
En consommateur.
Vous le dites dans votre livre, les enfants ne savent plus, ne savent plus rien des modes de production ni de la façon de les cuisiner les produits.
Non, mais par exemple, si on parle d'un panais ou d'une carotte à un enfant, il ne sait pas que c'est dans le sol. Or, c'est dans le sol qu'il y a la biomasse, c'est-à-dire que tout ce qui participe au vivant, toutes les bactéries, les champignons, tout ce qui nous donne le matériel immunitaire pour nous défendre au quotidien est dans les 50 premiers centimètres du sol. Dès lors qu'on met des intrants chimiques dessus, on détruit cette biomasse. On a perdu 70% de notre biodiversité en Europe. Donc, il faut évidemment moraliser...
Vous avez des enfants qui vous posent des questions, Laurent, sur les produits chimiques, justement, sur les pesticides. Il y a des enfants qui sont alertés par rapport à ça ?
Non, la première chose que les enfants ils disent quand ils arrivent, c'est « ça sent pas bon ». Parce que...
Et pourtant, après, quand on y retourne, c'est ce dont on est nostalgique.
Les pesticides, c'est des questions d'adultes.
Moi, bah, c'est des questions d'enfants aussi, quand même, si les enfants sont au courant
Non, non. Les enfants, ce qu'ils veulent voir, c'est une vache. Déjà, c'est savoir qu'une vache, c'est plus grand qu'eux. Que quand on leur dit que moi, j'ai des vaches qui vont faire en moyenne par jour entre 20 et 25 litres de lait, que ça représente un bidon de 20 litres de lait, ça peut nourrir à peu près, allez, on va faire 60 bols de lait pour les enfants. Donc avec une vache, on peut nourrir 60 enfants le matin au petit déjeuner à l'école. Ça, ça leur parle. Mais tout ce qui est produit, pesticides, les engrais, les enfants de 6 ans, c'est pas leur préoccupation.
C'est ce qui va leur rendre stérile et qu'en 2030, il y aura un homme sur deux qui sera stérile en France. Donc il faut quand même leur en parler.
C'est les enfants de 6 ans qui font de la politique.
Comment ?
Non, c'est pas les enfants de 6 ans qui font la politique.
C'est eux qui doivent prendre conscience, les premiers. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Parce que ce dont on n'est pas capable de faire, nous, pour nous-mêmes, on est capable de le faire pour nos enfants. est le gros problème aujourd'hui. Là où vous aviez totalement raison, Laurent, c'est qu'il faut qu'il y ait une éducation à l'école. Il faudrait qu'il y ait des potagers à l'école. Il faudrait qu'il y ait une éducation alimentaire, qu'on leur apprenne à cuisiner en plus du reste, pour qu'ils aient une conscience et un respect du vivant. Le vivant est essentiel et c'est une démarche humaniste qu'il faut réinsérer au sein de l'éducation nationale qui a complètement disparu. Et c'est là-dessus que je vous rejoins.
Merci Laurent d'être venu témoigner ce soir sur France Bleu et merci aussi pour l'accueil des enfants sur la ferme parce que ça commence évidemment par ça. On continue de parler tout ça avec vous. Si vous aussi vous êtes un peu révolté par tout ce qui se passe dans l'agroalimentaire notamment, si vous avez changé votre façon de consommer, si vous regardez les étiquettes différemment dans les supermarchés, si vous avez milité pour qu'il y ait une cantine bio dans votre commune, eh bien vous avez encore quelques minutes pour vous faire connaître. 0810 055 056.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Et si on arrêtait d'empoisonner nos enfants, c'est le livre de notre grand témoin Erwan Manteour et on en parle avec vous ce soir aussi de ces poisons et de ces solutions qu'on peut trouver aussi pour essayer de vivre mieux, de manger mieux. Nous sommes avec Stéphane en Provence. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
Alors vous regardez bien les étiquettes et notamment les étiquettes des biscuits.
Oui, exactement, parce que j'ai longtemps, parce que j'ai une maîtrise en pâtisserie, je regarde surtout les biscuits, ce que je donnais souvent un peu à mes enfants, et il y avait un truc qui me gênait, c'était marqué dessus, c'était marqué amido modifié. Et j'en ai discuté avec un médecin sportif d'une grande équipe de notre région, et j'y ai posé la question quand mon fils a fait un stage, et il a réussi à me sortir exactement ce que je voulais vraiment entendre, et dessus sur les biscuits, en gros, c'est marqué toujours, et dans beaucoup d'ingrédients et de biscuits et tout ce qu'on veut par derrière, il y a beaucoup, c'est marqué OGM c'est marqué amido modifié et amido modifié c'est OGM et ça a été, j'ai fait mes recherches moi-même et par d'autres personnes qui travaillaient un peu là-dedans et ils m'ont certifié que c'était vraiment ça. Le seul souci c'est que personne ne veut en parler. Et ça devient un problème.
Je suis pas d'accord, Stéphane.
Attention, le match. Erwan, vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit Stéphane?
Je suis pas d'accord parce que d'abord, je parle des ajouts de sucre. 56% des sucres que consomme le Français aujourd'hui sur 35 kilos de sucre qu'il ingurgite dans l'année, ce sont des sucres cachés. Et l'amidon modifié fait partie de ces sucres cachés. La quantité de sucre qui est rajoutée aujourd'hui, elle vient pas d'hier. En fait, au départ, il y a eu le principe de commodité. On faisait des plats préparés dans les années 60 pour que les gens consomment plus et que ça coûte de moins en moins cher, que ça aille de plus en plus vite. Ensuite, ils ont voulu réduire les structures de coûts. Comment faire pour que ça coûte moins cher et rendre les gens accros? Et là, ils sont rentrés dans les laboratoires et ils ont trouvé un génie qui s'appelle Howard Moskowitz, qui a mis au point quelque chose qui s'appelle le bliss point, ça s'appelle le point de félicité. En fait, le point de félicité, c'est ce qui permet de prendre le pouvoir du palais, du cerveau, des placards et de nos frigos.
Genre si on en met un tout petit peu partout.
Non, c'est pas un petit peu, c'est la quantité maximale de sucre que le cerveau peut supporter associé à du gras et du sucre. C'est-à-dire que si Aldous Huxley était encore vivant, celui qui a écrit Le meilleur des mondes, il nous dirait que ce point de félicité, c'est le soma qu'on donne au peuple pour le mettre sous tutelle. En fait, aujourd'hui, les gens...
On nous endort avec ça ?
Mais oui, on vous endort avec ça. C'est-à-dire que les gens qui gagnent moins de 1400 euros par mois sont les gens qui sont le plus massivement touchés par les maladies inflammatoires. Et c'est ceux qui sont le plus massivement accro au sucre. Il faut savoir qu'il y a trois circuits de la récompense dans le cerveau. La seule drogue qui couvre les trois circuits de la récompense, c'est le sucre. L'amidon modifié en fait partie. Et aujourd'hui, on sait que, par exemple, les cocaïnomanes, le sucre rend 8 fois plus addictif que la cocaïne. C'est Serge Ahmed, le chercheur du CNRS, qui l'a mis au point. Juste pour terminer, je vais essayer d'aller assez vite. Quand des gens sont accros à la cocaïne, à l'héroïne ou au cannabis, il y a entre 45 et 50% de rechute. Quand quelqu'un est accro au sucre, il y a 90% de rechute. Je vous laisse réfléchir là-dessus.
Eh ben, merci Stéphane d'être venu témoigner ce soir, d'être venu nous parler des biscuits. Donc, l'amidon modifié qui serait plutôt du sucre, donc plutôt que de la céréale. Et donc, voilà.
C'est la petite l'amidon info. Modifié, c'est du sucre.
C'est du sucre, voilà. À bientôt Stéphane. Et merci d'être venu nous éclairer aussi sur les étiquettes et nous faire en sorte qu'on regarde les choses un petit peu différemment.